Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Simple mortel. Malheureusement, cette personne ne le sait pas. Il faut absolument retrouver cette personne et la protéger. Car les forces du mal veulent s'emparer de lui. Et que si cette secte, car le mal est représenté par une secte, s'empare de Dieu et deviendra toute puissante. Dieu doit appartenir à la vraie religion, c'est-à-dire à la catholique. Il faut absolument que vous nous aidiez à récupérer Dieu. Monsieur Desanges lui dit, je vous remercie de l'honneur et de la confiance que vous me faites, mais je ne suis qu'un vieil homme, malade, fatigué, et je ne comprends absolument rien à cette histoire. Pape lui dit, nous savons de sources sûres par une femme que celui qui avait l'ADN en lui a eu un fils. La mère a été tuée avant l'accouchement. Avant l'accouchement de son fils. Qui était mort. Mais le fœtus a été mis dans une autre femme qui a cru accoucher de son fils qui était mort. Je ne comprends pas très bien votre sainteté. Une femme était dans la même clinique que celle qui devait accoucher de l'enfant qui a l'ADN de Dieu. Cette femme, son fœtus est mort. Alors on a mis à la place le fœtus de celui qui a l'ADN. Cette femme a élevé cet enfant comme si c'était le sien, et la mère de celui qui avait l'ADN est morte. Vous avez compris. Vous le connaissez et vous le voyez souvent. Très souvent. Le fils est en danger. Les Américains, les communistes, les Celtes, l'international veulent s'emparer de lui. Monsieur Jean-Jules lui demande. Le nom de l'enfant, votre sainteté, le pape lui répond. Ce n'est plus un bébé depuis longtemps. Il prend un papier. Écrit dessus. Plie le papier. Le met dans une enveloppe et lui dit, vous le lirez en lieu sûr, pas ici. Vous contacterez cette personne pour se mettre en rapport avec moi. Allez, partez. Je se lève et sort du bureau. Demi-heure plus tard, le téléphone sonne au bureau du pape. Le pape prend l'appareil.
Oui.
Votre sainteté, j'aimerais vous parler. Le pape soupire et lui dit,
bien, vous pouvez venir.
Et le pape décroche. Il soupire. L'on frappe à la porte.
Entrez.
La porte s'ouvre et entre un homme grand et fort, cheveux gris. Le pape lui dit,
approchez-vous, venez vous asseoir.
L'homme va s'asseoir dans le fauteuil en face du pape. Lui dit,
je vous écoute.
Cardinal lui dit, votre sainteté, nous savons ce que vous avez dit à monsieur de Jean-Jules. Le pape lui dit,
et alors?
Il ne le fallait pas, c'est un secret. Il fallait le divulguer à personne. Vous mettez en danger toute la chrétienté et le monde occidental. Vous devez puni pour ça. Le pape lui dit,
vous allez le faire.
Peut-être. Il faut un exemple. Des papes, il y en a eu beaucoup, ont été, disons, aidés à passer dans l'autre monde. Vous avez des devoirs et des interdits. Il y a des choses que personne ne doit savoir. Si vous les divulguez, vous risquez de déclencher une guerre ou la fin d'un monde. Vous avez fait une faute, il faudra peut-être payer. Le pape lui dit,
j'y étais obligé, l'esprit de Dieu est en danger. Ici, on tue la personne, nous sommes perdus. Et puis monsieur de Jean-Jules est des nôtres.
Le cardinal lui dit, s'il arrive quoi que ce soit à cause de vous, à cause de ce que vous m'avez dit, vous êtes perdu. Le pape lui dit,
attendez, et pourquoi ne pas mettre l'ADN de Dieu dans le corps du pape? Le
cardinal lui dit, oui peut-être, mais dans un pape plus jeune que vous. Le cardinal se lève et dit, je dois vous quitter votre seigneurie. Il ne reste plus qu'à attendre.
Et il quitte le bureau.
Le pape sait qu'il est prisonnier au Vatican, que ses jours sont peut-être comptés.
Monsieur de Jean-Jus, après la visite au pape, rentre dans son hôtel. Il décide de rentrer de suite en France et une fois arrivé, il ira le nom de la personne. Il se dit qu'il a une mission très importante à faire, qu'il doit faire vite, car une personne est en danger de mort. Une fois dans le hall de l'hôtel, il va vers le concierge et lui dit « Monsieur, je suis monsieur de Jean-Jus, j'ai la chambre 624 et j'aimerais... » C'est ma note tout de suite. Le concierge est un vieil homme, grand, à cheveux blancs, lui dit Monsieur est très pressé. Il part de suite.
Oui, ma télégramme m'annonce une nouvelle très importante. Je dois rentrer.
Je suis désolé, monsieur.
Téléphonez à la gare pour une place pour Paris cet après-midi.
Bien, monsieur. Et monsieur de Jean-Jus monte à sa chambre.
Une fois dans sa chambre, il prend ses valises qui sont sur l'armoire. Il commence à la remplir. Frappe à la porte.
Entrez.
Entre la bonne.
Monsieur, on m'a dit que vous partiez. Je suis venu vous aider pour les bagages.
Merci. Prenez la malle qui se trouve en bas de l'armoire et commençons.
Et il commence à ranger.
Une demi-heure plus tard, les bagages sont faits.
L'on sonne au téléphone. Il décroche.
Oui, monsieur de Jean-Jules, je suis le concierge. J'ai téléphoné pour votre train. Il y en a un qui part dans 2 heures de la gare de Rome. Cela vous va-t-il?
Oui, merci.
Vous voulez manger un petit quelque chose avant de partir?
Oui, merci. Amenez-moi un plat de charcuterie, une salade et du fromage. Merci.
Il y a toujours la lettre du pape dans la poche de sa veste. Les bagages sont prêts. De la porte, il va s'asseoir dans un fauteuil. Soupire. Et se dit,
j'ai pas eu le temps pour faire grand chose. Il faudra que je revienne un de ces jours. Je commence à me faire vieux. Oui, je commence à me faire vieux. Je ne dois pas trop attendre avant de revenir. Après, il sera trop tard. J'ai de la chance, à mon âge, de pouvoir sortir, voyager. Mais pour combien de temps? Est-ce à Rome, Paris, que je dois finir pour finir mes jours? Que je dois choisir pour finir mes jours?
On frappe à la porte.
Entrez.
Entre le serveur, pour qu'il y ait le repas froid sur les tables roulantes. Il va jusqu'à lui.
Monsieur Jean-Jules regarde le jeune serveur et se dit,
il est bien jeune et beau, celui-là. Il a de la chance.
Monsieur ne veut rien d'autre?
Non, merci.
Et le gentil jeune homme le quitte.
Monsieur de Jean-Jules commence à manger.
Une fois qu'il a fini de manger, le téléphone sonne.
Il décroche.
Monsieur de Jean-Jus, c'est le concierge. Le chauffeur est en bas pour vous mener à la gare.
Bien, je descends.
Je vais vous prendre vos bagages.
Merci.
Monsieur de Jean-Jus décroche. Il attend un peu. On frappe à la porte.
Entrez.
Entre le domestique.
Monsieur, je viens chercher le bagage.
Monsieur de Jean-Jules lui montre les valises et les marmes. Domestique les prend et sort.
Monsieur de Jean-Jules le suit.
Arrivé au hall, le concierge, des domestiques, la direction de l'établissement vont lui serrer la main et lui souhaiter un bon voyage. Le directeur lui dit, j'espère que nous vous reverrons bientôt.
Oui, bien sûr.
Le directeur lui dit, madame la comtesse de Sarina aussi souhaite que vous reveniez. Elle a un fils très spirituel et de magnifiques fresques du 15e. Monsieur Jean-Jean lui dit, je suis vraiment navré d'avoir raté cette jeune personne. Au revoir et merci. Je reviendrai, c'est permis, c'est promis.
Et il dit au revoir à tous en leur donnant un pourboire.
Il entre dans la voiture et le chauffeur la met en route. Rome défile devant ses yeux, il a le cafard de quitter cette ville. S'est arrêté devant le hall de la gare. Il donne sa carte pour payer le chauffeur et sort de voiture. Un portier vient chercher les bagages et suit Monsieur de Jean-Jules qui va à la gare. Hors de la gare,
c'est dans une heure.
Il y a du monde.
Une heure.
Il va vite à un guichet. Fait la queue. Enfin, c'est à lui. Un aller pour Paris, s'il vous plaît. Première classe.
Sûr d'être juste pourtant.
Oui. Départ 10 minutes. Quai B Nord. Il lui rend sa carte et lui donne un ticket. Monsieur Delangy.
Pardon monsieur, ça vous arrivera pas de vous bouger un peu parce que j'ai mon
mari. Il va vers le quai B Nord. Il y a du monde.
Si on veut grignoter quelque chose, ce serait mieux.
Le train n'est pas encore arrivé. Il faut attendre. Enfin, le train arrive. Les voyageurs descendent, il faut attendre pour pouvoir entrer. Enfin, on peut rentrer. Il entre dans un wagon de première. Trouve un compartiment seul. Le portier l'aide à mettre ses bagages sur le porte-bagages. Il le paye et se retrouve seul. S'assoit. Se sent tout d'un coup triste. Déjà le retour pour Paris. Il se dit qu'il est pour ainsi dire un envoyé spécial du pape pour Paris, pour une mission particulière, ou plutôt un espion du pape, comme OSS 117 ou autre, à son âge.
Mais ça fait une heure, pourquoi ils ont pas dit une heure ?
Et dire qu'il a sur ses épaules l'avenir du monde occidental.
On les mange les sandwichs.
Tout le monde occidental est entre ses mains.
Je suis comme ça, j'ai faim.
Le train bouge. Puis commence à rouler.
Là, je te l'avais dit. Vous savez. Je sais pas.
On quitte la banlieue de Rome et la campagne commence. C'est nuit. Monsieur de Jean-Just s'est endormi. Le compartiment est dans le noir. Monsieur de Jean-Just est toujours seul. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Et se referme sur deux hommes, deux formes humaines plutôt. Le bruit a réveillé Monsieur de Jean-Just qui a sursauté. Ah, qu'est-ce que c'est ? Les mains se penchent sur lui, le maintiennent bien serré. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur Jean-Jus essaye de se défaire de ses emprises, mais il ne peut pas. On le touche de partout. Laissez-moi, laissez-moi. Je n'ai rien, rien du tout. Un homme lui dit : laissez-vous faire. On ne vous veut aucun mal. Laissez-vous faire. Monsieur de Jean-Jus sent qu'on lui fouille les poches. Et il sent une odeur bizarre qui s'approche de son visage. Cette odeur devient de plus en plus forte et l'empêche de respirer. La conscience est... trou noir. Il se réveille, courbaturé, en chien de fusil, reprend ses esprits, se souvient de l'agression. Regarde en haut, voit que ses bagages sont en place. Se lève, range ses cheveux et ses vêtements. Se souvient, l'enveloppe du pape. Il cherche dans ses poches. Rien. L'enveloppe a été prise. On l'a attaqué pour ça. Il aurait dû lire le nom avant. Maintenant, il est trop tard. Trop tard. Il s'assoit, démoralisé, épuisé. Et se souvient d'une phrase du pape. Vous le voyez souvent. Vous le voyez souvent. Souvent. Puis, il arrive en gare de Lyon, épuisé, démoralisé. Il sort de la gare. Gare de Perrache. Il prend un taxi pour rentrer chez lui. Il entre chez lui, laisse ses bagages dans le couloir et décide d'aller se coucher. Après, il verra. Oui, il verra. Par sa faute, le monde occidental est peut-être perdu. Ça va être la fin du monde. Que va-t-il faire maintenant ? Deux voleurs de l'enveloppe sont restés dans le train et sont revenus à Paris. Arrivé à Paris, tard dans la nuit, Ils sont sortis de la gare. On prend un taxi. Ils ont donné une adresse. S'est arrêté devant Ville Immeuble. Ils payent et sortent du taxi. Puis vont rentrer dans le vieil immeuble. Et là, ils vont au fond de l'allée pour ouvrir la porte qui mène à la petite cour. Ils suivent la petite cour et vont jusqu'au vieil immeuble, jusqu'à la vieille petite maison plutôt. Sonne à la porte. Le domestique leur a ouvert. Pourquoi venez-vous à une heure pareille? Les deux hommes leur dit. Parce qu'on nous a dit de venir dès notre arrivée. Mais c'était. Bien, venez. Ils entrent. Domestique ferme la porte. Suivez-moi. Et ils suivent le domestique. Le domestique entre. Monsieur, vous pouvez les recevoir? Oui, il est dans son lit. Bien, monsieur. Vous pouvez rentrer, ils entrent. Approchez. Ils s'approchent du lit. Le vieil homme demande, ça s'est bien passé? Oui, monsieur, tenez-moi l'enveloppe. Un des deux hommes la lui donne. Le vieil homme la regarde. Il voit qu'elle n'a pas été décachetée et dit « Le vieil imbécile, il n'a pas lu la lettre. Il ne sait pas qui elle est lue. Nous sommes sauvés. Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. » Et les deux hommes sortent de la pièce. Thank you. Monsieur Dangerju n'arrive pas à s'endormir. Il essaye de voir dans ses connaissances qui peut bien être la personne. Il a beau chercher, ne trouve rien. Bien sûr, si Charles était près de lui, il se dirait que c'est lui. Il ne trouve pas du tout. Un jeune d'une vingtaine d'années, il ne voit pas. C'est pas facile à savoir. Les jeunes sont si peu sérieux à notre époque. Comment savoir que c'est le Fils de Dieu? Il peut. Peut-être qu'il fait du rap, nique ta mère, met le feu aux voitures, vole les vieilles. La jeunesse est tellement dépravée. Non, il ne voit pas. Le lendemain matin, épuisé, démoralisé, il se dit qu'il faut qu'il prévienne le pape de la catastrophe. Il hésite entre lui écrire ou lui téléphoner. Lui écrire, ça risque. On risque de lire sa lettre. Mais téléphoner, on risque de l'écouter. Alors, il décide de lui écrire. Comme ça, il recevra l'engueulade par correspondance. Il lui écrit ce qui s'est passé et ses regrets. Monsieur de Jean-Jus attend. Pas de réponse. Des jours passent.
Une nuit, le pape est dans son lit. Il dort. Il est réveillé par la porte de sa chambre qui vient de s'ouvrir.
Il y a quelqu'un.
Réponse. Il fait nuit noire dans la chambre. Des pas. Il appuie sur le bouton de la lampe de chevet qui n'éclaire pas. Elle ne marche pas. Il sent un souffle tout près de lui.
Que se passe-t-il ?
Réponse. Tout à coup, une chose épaisse se plaque sur son visage et s'appuie. Cette chose l'empêche de respirer convenablement. Il veut se l'arracher, mais on est plaqué contre lui. On le maintient bien. Il se débat comme il peut. On le serre de plus en plus. On appuie de plus en plus sur son visage. Il a le souffle de plus en plus difficile. Il se dit qu'on cherche à le tuer. Il gesticule comme il peut, mais il est bien maintenu. Il veut mordre le tissu sur le visage, mais il n'y arrive pas. Il a de plus en plus chaud, il a de plus en plus de difficultés à respirer. Ses muscles deviennent lourds, très lourds. il a chaud, il a froid, des battements de corps, vertige. Il a même l'impression quand tout tourne. Fais un grand effort pour souffler. Écarquille les yeux, la bouche sèche, essoufflée. Rien, c'est le trou noir. Le trou noir plie. Il reprend conscience. Faible, très faible. Des formes sur tout le corps. Des fourmis sur tout le corps. Sa respiration lui fait mal. Elle devient de plus en plus difficile, épuisée, il lâche prise. Rien, le trou noir, il est mort. Peu de temps, d'abord parce qu'il était déjà enrhumé, fatigué, et puis il n'avait plus 20 ans. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.